La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens. La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. C'est signé Spinoza. Bonsoir à vous qui nous avez rejoints sur la première. Vous avez raison d'être au rendez-vous car ce soir nous allons faire la paix. Le pacifisme est-il l'illusion perdue du XXe siècle ou une vision du monde qu'il faut continuer à alimenter? Face aux dangers du nucléaire, du terrorisme, du changement climatique et de la montée des extrêmes, se battre pour un monde en paix, est-ce encore réaliste? C'est sur la paix donc que nous allons réfléchir ce soir en ce 11 novembre. Bienvenue dans Libre Ensemble.
Libre Ensemble, Catherine Axe, Jacques Nizin.
C'est ce dont nous allons débattre aujourd'hui, la paix, en ce 11 novembre. En effet, avec nous, au micro, pour en parler, Bruno Ellendorf. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes chercheur, coordinateur du programme Paix et Sécurité en Asie-Pacifique, au GRIP, groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Et Thierry Delannoy, bonsoir Thierry.
Bonsoir.
Vous travaillé pendant 34 ans et plus pour le mouvement international pour la réconciliation internationale des résistants à la guerre. C'est un peu long, mais en 2013, ce mouvement est devenu Agir pour la paix. C'était plus facile.
C'était plus facile.
Et puis nous aurons aussi au téléphone avec nous le professeur Jean-Michel Guyeux, maître de conférences en histoire contemporaine des relations internationales et de l'intégration européenne à l'Université de Paris 1. Alors, première petite question à mes invités. Face au danger du nucléaire, donc du terrorisme et de tous ces changements, est-ce qu'aujourd'hui on est complètement idéaliste si on peut et qu'on veut croire en un monde fait de paix? Bruno Ellendorf, allez, pour commencer.
Je pense personnellement que c'est pas parce qu'on se bat pour des principes qu'on ne peut pas, dans leur implémentation, dans leur mise en œuvre, être concret, pragmatique, voire réaliste. L'enjeu qui se pose aujourd'hui, c'est peut-être justement de réagir face à ces différents défis, sécuritaires principalement, et de s'interroger finalement sur l'alternative qui existe. Comment est-ce qu'on les gère? Comment est-ce qu'on les comprend? Condamner les conflits ne suffit pas à les arrêter, mais dire qu'ils sont inévitables, encore moins. Donc, réfléchir, s'interroger sur la conflictualité de ce siècle, sur les moyens de la gérer, possiblement de la solutionner, n'est évidemment pas une route facile. Et pour nous accompagner dans cette réflexion, je pense que des choses comme le pacifisme, qui n'est pas du tout une idéologie cohérente, qui a donné lieu à un foisonnement d'idées, est une bonne base, potentiellement, et certainement pas, je dirais, une relique du passé à abandonner en même temps que les mobilisations qui ont été rattachées dans les années 60, 70 ou 80.
Pourtant, c'est un outil qu'on a un peu oublié, si on veut le prendre comme outil davantage que comme idéologie. Est-ce que pour vous, Thierry Delannoy, le pacifisme veut dire la même chose partout? Est-ce que ça a voulu dire la même chose dans le passé et aujourd'hui? Ou est-ce qu'il faut redessiner les contours du pacifisme?
Je crois que c'est toujours dire la recherche de la paix. Et je crois que le philosophe Alain avait dit, on n'a jamais essayé la paix. Mmh. Et c'est une réflexion qui peut aller très loin, parce que ça veut dire quoi? Quand on sort en permanence, si tu veux, la paix prépare la guerre, je ne sais pas, mais si je mets une plantation de betteraves, je risque pas de récolter du blé.
Oui, alors c'est toujours l'inverse que l'on a fait, évidemment. Donc aujourd'hui, comme au 19e siècle par exemple, où il faut redessiner les contours du pacifisme, on va voir historiquement ce que nous a apporté ce pacifisme justement, puisqu'on a posé la question au professeur Guyeux, professeur à l'Université de Paris 1. On l'écoute.
Je dirais que le passé montre que finalement il est très difficile de mener le combat pour la paix, mais qu'en même temps ce combat a amené un certain nombre d'avancées, qu'il s'agisse du droit international, qu'il s'agisse des organisations internationales qui ont été créées, qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire que finalement on est redevable aujourd'hui dans les normes actuelles à un héritage dont les pacifistes ont pu avoir un apport qui était tout à fait substantiel. Beaucoup d'idées qui sont encore aujourd'hui d'actualité ont été forgées à la fin du 19e siècle ou au cours du 20e siècle.
Voilà, donc d'après le professeur Guyeux, le pacifisme a apporté beaucoup de choses dont on ignorait finalement les fondements puisqu'on n'en parle pas beaucoup. Alors pourquoi est-ce qu'on a oublié ce pacifisme et quand date un peu ce glissement où on parle moins de pacifisme qu'avant, Bruno Ellendorf?
À mon sens, je ne sais pas si on a complètement oublié tant qu'on l'a rejeté au même titre donc que les manifestations contre la guerre au Vietnam, en Irak, etc. C'est donc, à mon sens, depuis la fin de la guerre froide, un glissement structurel au niveau de l'ordre international. On est passé d'une logique d'ordre, si vous voulez, une bipolarité structurante pendant la guerre froide.
Entre deux grandes forces.
Absolument. Oui. Et donc, les conflits, il n'a pas manqué de conflits. On peut parfois penser que c'était une ère relativement apaisée, tendue, mais apaisée, ce n'est pas vrai. Dans ce qu'on a appelé le tiers-monde, il y avait beaucoup de conflits, de guerres, mais qu'on considérait principalement à l'aune des conflits de puissance à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale. C'était des guerres par procuration, c'est du moins ce qu'on en disait. Avec, si vous voulez, la fin de la guerre froide, plutôt que l'hyperpuissance américaine, ce qu'on constate, c'est plutôt une sorte de cooptation de différents pays au sein de forums de gouvernance. Donc il y a le G2 qui n'a jamais véritablement démarré, mais il y a le G20, il y a le G7, il y a d'autres forums qui se développent et qui essayent, bon an mal an, de fournir soit une alternative, soit en tout cas une sorte de pilotage des relations internationales. Mais qui est dedans ? Qui n'y est pas, selon quelle modalité s'exerce du coup cette gouvernance, ça c'est un enjeu très concret aujourd'hui. Et alors la conflictualité s'exprime dès lors sous un air nouveau. Et là, encore une fois, il me semble important de sortir le pacifisme du cadre particulier de la guerre froide où on l'avait peut-être un peu trop confortablement installé et de le remettre à l'ordre du jour, c'est-à-dire d'interroger ces conflits d'aujourd'hui qui sont donc indissociables, le pacifisme lui-même et les conflits, de la conduite de la diplomatie d'une part et puis de la conflictualité interétatique, transétatique ou autre.
Donc le pacifisme, vous voulez dire, fait partie intégrante des relations internationales aujourd'hui, même si on en pose moins les jalons, on en parle moins, c'est partie intégrante des relations internationales.
En tout cas, ces héritages, il y a certains héritages très concrets au niveau du droit international, comme l'avait dit le professeur Guilleux, et au niveau de la réflexion qui peut être menée par les sociétés civiles. Vous avez aujourd'hui, cette année, un prix Nobel de la paix qui a été accordé à la société civile pour un traité d'interdiction totale des armes nucléaires. Alors ce n'est probablement et vraisemblablement pas ce traité qui va mener en lui-même et par lui-même à un monde sans armes nucléaires. C'est d'ailleurs vraisemblablement une utopie. Mais néanmoins, c'est un geste fort qui a été posé. Quel est véritablement l'impact de ce geste sur la conduite des relations internationales, c'est à voir. Néanmoins, ça vaut la peine parfois de s'interroger sur le poids des idées et pas seulement sur la conduite telle qu'elle a été menée hier, avant-hier ou même avant.
Thierry Delannoy, une réflexion ?
Mais c'est vrai que tout le problème du nucléaire militaire est très important. Si un certain Barack Obama, qui se disait opposé à l'armement nucléaire, pendant les 8 ans était au pouvoir, l'armée américaine a investi des milliards de dollars dans l'armement nucléaire. Quand on voit par exemple pour le prix Nobel de la paix, ICAM, parce qu'il a soutenu pour qu'il y ait ce nouveau traité, c'est assez impressionnant, alors qu'il est toujours prêt à répondre à n'importe quel micro qu'un certain monsieur Renders. Pour ce sujet-là, il n'a pas eu un mot. La Belgique a voté contre ce projet, comme tous les pays de l'OTAN et certaines grandes puissances.
Vous voulez dire que tout le monde est pour le pacifisme, mais que les États n'agissent pas en ce sens, en tout cas.
Pas du tout, parce que dans les pays émergents ou les pays du Sud où il y a des guerres, le mot pacifisme a un sens beaucoup plus présent et beaucoup plus d'actualité. Et il mène des actions contre vents et marées, principalement des actions non violentes. Il tâche de s'affirmer. Mais ici, on en parle peu. Et alors, c'est vrai que quand il y avait les euromissiles, les gens se sont mobilisés, mais ils étaient les cibles. C'était eux qu'on visait. Et le mouvement pacifiste n'a pas réussi à faire une éducation, je dirais, populaire, sur les dangers du nucléaire proprement dit, en dehors des qu'on soit les cibles. Mm-hmm. Et alors c'est un peu là où il y a eu l'armement nucléaire comme d'autres systèmes d'armement utilisés actuellement, parce qu'on en trouve de nouveau avec des lasers. Exerce surtout pour amener une suprématie non pas politique, mais surtout économique. Et c'est un système qui était la base de tout ce déferlement des guerres coloniales précédentes et des nouvelles guerres coloniales qui existent maintenant, parce que les interventions en Irak ou ailleurs, ce sont des guerres coloniales. Ça ne peut pas être appelé, à mon point de vue, comme étant pour la démocratie ou Dieu sait quoi. Si c'est ça leur démocratie, on n'en veut pas.
Alors, en quelque sorte, le terme pacifisme ne mobilise plus autant qu'avant, parce qu'on a longtemps pensé que le pacifisme, ce n'était justement que combattre la guerre. Or, c'est bien plus, vous pensez, Bruno Ehlendorf?
Moi, je pense que c'est une opportunité, si vous voulez. Je fais véritablement la différence entre le pacifisme en tant que mobilisation d'hommes, de femmes, d'organisations, le pacifisme dans sa trajectoire historique. Si vous voulez, le pacifisme a une histoire qui remonte plus loin que la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. C'est plus compliqué que le plus jamais ça. Ça s'intègre à une logique qui peut être réaliste, comme je le disais en début d'émission, par certains aspects dans son implémentation. C'est se dire que la guerre nuit certainement aux intérêts de la majeure partie de la population, si pas de l'humanité. Donc, dans ce cadre d'une réflexion qui peut s'appeler humaniste, qui peut s'appeler de plein de manières différentes, je pense qu'il y a eu un foisonnement qu'il y a lieu de considérer aujourd'hui, à l'aune justement des transformations que j'appellerais peut-être un peu fonctionnelles de l'ordre international. À partir du moment où on ne se pose plus la question de la matrice par laquelle on analyse les relations internationales, on considère par exemple qu'il est tout à fait normal et logique, on l'a vu par exemple dans le cas de justement du sauvetage de la Grèce, dans un tout autre dossier, les institutions européennes ont mis en place une certaine recette qui semblait absolument justifiée. On a vu qu'il y a eu un retour de la société civile qui disait « Ah non, nous voulons réinvestir le champ du politique avec une alternative ». Et c'était quelque chose de très très concret. Eh bien, dans le domaine, si vous voulez, sécuritaire, pourquoi ne pas réfléchir justement aux alternatives pour concevoir la conflictualité de ce monde et l'avenir, la construction de la paix, sous un angle qui est nourri justement par la réflexion qui a été celle du pacifisme ou des pacifismes au pluriel pendant le siècle précédent et même pendant le siècle d'avant.
Alors, pacifisme qui n'est pas qu'un combat mais aussi une vision du monde, c'est exactement ce que nous explique le professeur Guyot.
Il y a à la fois les raisons de la guerre froide qui ont fait qu'on était dans un monde relativement en paix mais qui était fondé sur un équilibre de la terreur entre les deux grandes puissances. Et puis surtout en Europe, je dirais qu'on a quand même connu le processus de construction européenne qui a fait en sorte que finalement un des moteurs de la construction européenne c'était d'assurer la paix entre les Européens. Et il y a eu une sorte de pacification des sociétés européennes où finalement le combat pour la paix est moins devenu une urgence qu'il pouvait l'être à des époques antérieures. Je dirais que la Seconde Guerre mondiale a quand même fait progresser l'idée de la paix parce que on s'est rendu compte que finalement tout nouveau conflit serait suicidaire et qu'il fallait donc essayer de trouver d'autres solutions. Et finalement la menace et l'équilibre nucléaire ont amené une paix de dissuasion qui n'est pas une vraie paix. C'est-à-dire que le projet des pacifistes n'est pas simplement d'écarter la guerre en réclamant la paix, mais il s'agit aussi de proposer une alternative à la société internationale telle qu'elle est. Donc il y a un contenu, il y a un projet précis qui est essentiellement basé sur le progrès du droit international et l'institution des rapports internationaux. Ça, je dirais que ce message reste encore valable aujourd'hui.
Thierry Delannoy, vous qui êtes militant pacifiste depuis plus de 30 ans, fils de militaire, petit-fils de militaire, et qu'est-ce que le combat en 2017 pacifiste pourrait vouloir dire? Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour l'avenir de ce pacifisme aujourd'hui?
Une notion n'a pas d'avenir en tant que telle. Elle est confrontée à la réalité du quotidien dans beaucoup de pays. Et il y avait un ancien dirigeant, nicaraguayen, mais j'ai oublié son nom, qui disait que la solidarité et la tendresse des peuples qui montraient qu'on pouvait arriver à un vivre ensemble mondial autre, sur d'autres bases, mais qui ne sont pas les bases du système économique en place. Le système économique en place est là pour imposer sa volonté. Et les guerres ne sont pas pour trouver des solutions, mais pour imposer des volontés. Mmh. Et donc, qu'on dise qu'il n'y a pas de guerre en Europe, donc il n'y a pas de guerre dans le monde, c'est faux. Il y a des guerres. Et quand on voit, par exemple, l'intervention de l'armée belge en Irak, on se demande qu'est-ce qu'il fout là. Ça n'a aucun intérêt, ni pour la défense du territoire, ni les grandes idées qu'on sortait à l'époque du nationalisme. Mais ce sont des mercenaires pour des multinationales.
Donc le combat sur le terrain, de la part des pacifistes, a quand même changé. Qu'est-ce qu'on fait comme action aujourd'hui, en Belgique, en Europe, pour défendre cette idée du pacifisme, par rapport à il y a 20 ans ?
Mais je dirais, on fait les mêmes choses. Parce que le service civil international fête ce 70e anniversaire, il renouait les papiers. Et puis quand on voit les grands thèmes d'année, celle de 47 ou de 50...
Quels sont-ils, par exemple ?
Ils sont les mêmes.
Les ventes d'armes ?
Les ventes d'armes, la solidarité entre les peuples, le contrôle de l'armement, le désarmement nucléaire, tout ça apparaît toujours en permanence. Et il faut continuer. Parce que ne pas continuer, c'est du suicide. Parce que nous sommes tous des otages de superpuissance.
Oui, même si les superpuissances ont un peu changé de main, Bruno Le Nord, je me tourne vers vous parce que vous êtes l'expert de l'Asie. Est-ce que cette émergence, l'émergence de ces nouvelles puissances mondiales, notamment en Asie, change la donne ?
À mon sens, complètement et radicalement. Aujourd'hui, il est de plus en plus évident, à défaut d'être empiriquement prouvé, que le président chinois est plus puissant que le président américain, pour des raisons de politique interne, mais également parce que la Chine a une économie qui n'arrête pas de croître, un rythme supérieur à celui de l'économie américaine, parce que son armée se développe, parce que elle a aujourd'hui un projet donc d'infrastructure qui relie, qui véritablement relierait l'Europe à la Chine au travers de tout le continent eurasiatique, aussi bien sur terre qu'en mer, qui représente des centaines, si pas des milliers de milliards de dollars de prêts d'investissement sur 30 ans en 48 pays. Donc c'est véritablement un monde asiatique, à mon sens, à mon humble avis, qu'on va assister de plus en plus. Et donc cet héritage, si vous voulez, qui est quand même souvent, en tout cas sous nos l'attitude présentée comme très eurocentrée, va avoir de plus en plus de mal à s'imposer, si vous voulez, ou alors simplement à la marge d'un autre discours. Parce que pour des pays, comme vous l'avez mentionné, donc il y a plusieurs pays asiatiques, mais il y a la Chine, il y a l'Inde, après il y a l'Indonésie, il y a d'autres pays encore, eh bien tous ces pays, véritablement, veulent donner un sens à leur montée en puissance, qui n'est plus tributaire de ce qu'elles ont connu dans le passé, d'une part, et surtout qui n'est pas tributaire de ce qu'un Occident, et j'utilise des guillemets en utilisant ce terme, a pu concevoir par rapport à lui-même. Donc le pacifisme, si vous voulez, en tant que tel, comme je l'ai dit, c'est une opportunité pour nous, en tout cas avec nos propres référents, de nous interroger sur le monde à venir. Et peut-être...
Est-ce que eux sont prêts à nous entendre ? Ou est-ce que, de un, ils ont la même notion que nous du pacifisme, et est-ce qu'ils ont envie de nous entendre ? Ou est-ce qu'on est un peu les seuls à se dire ce serait quand même bien qu'il y ait un peu de paix dans le monde ? Ou eux l'ont compris aussi, et pour finalement émerger, ont besoin également d'un monde en paix ?
Si vous voulez, c'est pas un discours qui doit être dirigé vers l'extérieur, c'est pas prescriptif. Et là, c'est le grand danger, c'est-à-dire que chercher à voir les choses au travers de sa propre expérience dans tous les champs, des sciences sociales, c'est potentiellement problématique. En relations internationales, tout particulièrement. Et donc, ce retour de bâton qu'on peut avoir, vous savez, plusieurs fois où je vais en Asie, on nous dit oui, mais bon, quand l'Europe essaye de se positionner sur un dossier sécuritaire, qu'est-ce qu'elle contribue ? Ah oui, mais on est partenaire dans tel ou tel domaine. Oui, mais bon, c'est pas les États-Unis, c'est pas la Chine, donc soyez un peu plus humbles dans vos prétentions. Par contre, nous sommes un partenaire sur les gros dossiers internationaux avec beaucoup de pays asiatiques, parce que il faut gérer justement des contingences comme le dossier nord-coréen, parce qu'il faut, on peut contribuer au niveau des retours d'expérience par rapport aux flux migratoires, par exemple. Nous, on a notre propre problème en Méditerranée. Vous avez l'héroïne gaz en Asie du Sud-Est, vous avez beaucoup de flux migratoires vers l'Australie qui posent problème. Donc il y a des partages d'expériences qui peuvent se faire peut-être avec une plus grande considération apportée aux droits humains. Et j'ai tendance à dire qu'on peut parler de ces choses sans se focaliser sous le seul vocable pacifisme, mais en tout cas de considérer ces différents dossiers pragmatiques, pratiques politiques, au travers d'une aune un petit peu différente, d'une autre matrice. Et le pacifisme nous permet nous-mêmes de nous interroger sur cette matrice.
Est-ce que le GRIP, les mouvements comme le GRIP ou Agir pour la paix, travaillent main dans la main avec d'autres pays, avec l'Europe, avec le monde? Est-ce que les actions pacifistes, citoyennes et organisées sont en contact?
En permanence. Nous sommes membres de deux internationales, qui est l'IFOR et la War Resistance International. Et ce sont des relations permanentes et de soutien ou d'entretien, d'échange d'expériences. Et c'est beaucoup plus efficient qu'on ne le pense. Parce que ce que beaucoup de peuples qui sont soumis à une situation de désespérée, tant au niveau économique qu'au niveau social, qu'au niveau démocratique, d'absence de démocratie, ont besoin d'être soutenus dans leurs projets qui amènent de l'espoir et qui leur permet de se repositionner dans le monde. Et là, que ce soit dans des régions très vastes, en Afrique ou même en Amérique latine, on a vu comment on présentait certaines choses plutôt que d'autres, et avec des mensonges éhontés, parce que l'information répondait à nos besoins économiques et non pas à la réalité sociale.
Plus une propagande économique finalement qu'autre chose. Bruno Lendorf, une réflexion par rapport à ce que vient de dire Thierry Delanoë.
En tout cas pour le GRIP que je représente ici, on a une approche qui est différente, c'est-à-dire que on n'est pas un mouvement ni pacifiste ni autre, nous sommes un centre de recherche et à ce titre, si vous voulez, la philosophie de base est surtout un, institutionnellement nous sommes indépendants, mais surtout c'est comprendre les conflits, si vous voulez, pour mieux les gérer, voire les solutionner. Donc c'est là où c'est très important, parce que tout mouvement pacifiste ou autre d'ailleurs, a besoin de données fiables pour mener son action. Et dans ce cadre, c'est très important, et nous ne sommes pas les seuls. À un niveau européen, on peut citer de nombreux autres instituts, comme le CIPRI en Suède, par exemple, qui est l'un des plus connus, qui travaille sur les études de paix, Peace Studies. Et donc, c'est là où le GRIP, en tout cas, s'inscrit, qui est dans une logique véritablement qui n'est pas militante, mais engagée dans la recherche. Et je pense, pour ma part, que c'est fondamental, parce que c'est par l'éducation de la société civile qu'on pourra parvenir véritablement à des transformations politiques à terme, parce qu'on appréhende les conflits et les enjeux pour ce qu'ils sont.
C'est d'ailleurs pour nous très important d'avoir recours au GRIP, au CIPRI, parce que ça nous donne les moyens d'agir. Alors c'est vrai que quand on parle du traité d'interdiction des armes nucléaires, ça paraît pour nous très loin, mais on peut travailler de manière beaucoup plus concrète. Et donc on a une campagne par exemple contre la revendication.
Chiffres en main, on pourrait dire.
Oui, avec des chiffres en main, mais on fait une campagne où les gens peuvent s'y retrouver. Donc contre le nucléaire, on pense d'abord de dire il faut retirer les bombes nucléaires qui sont en Belgique, il faut que la Belgique ratifie ce traité, et il faut que la Belgique et peut-être d'autres pays européens deviennent une zone libre d'armes nucléaires. Il faut savoir qu'il y a des continents entiers, comme l'Afrique et l'Amérique du Sud, sont des zones anti-armes nucléaires. Et alors, on commence petitement en disant, faisons une zone sans armes nucléaires en Belgique, et puis peut-être aux Pays-Bas, puis peut-être au Luxembourg, peut-être puis la
France. Ça ferait tache d'huile, tout doucement.
Oui. C'est un des moyens, et qui est accessible auprès de la population. Parce qu'arriver avec des grands projets qui fait que les gens disent, mais c'est pas pour moi ça, c'est pas... C'est bien, c'est utopique. Bon, il en faut aussi. Quand La Fontaine a fait tous ses écrits sur le droit par rapport à la guerre, et dont il a eu le prix Nobel de la paix en 1913...
Henri
La Fontaine. C'était complètement utopique. Et on ne se rend plus compte de ça. Le tribunal international de La Haye est un accord aussi, la fin du 19e, entre les superpuissants, mais les Allemands n'ont pas voulu que ce soit obligatoire, mais parce qu'ils se sont encerclés. Et donc, mais tout ça, ces gens qui ont créé ça à cette époque-là ne savent pas les conséquences que ça a pu donner jusque maintenant, et l'outil qui est toujours présent. Et les, après les conflits, on trouve beaucoup de gens prêts à se battre. Et je suis envoyé un des drapeaux des anciens combattants de la Louvière. C'est un soldat qui brise son fusil. C'est un symbole tout de même très marquant, parce que la guerre de 14 a surtout permis de noyer le mouvement social en cours dans tous les pays. Et rien de mieux qu'un bon massacre au combat.
Donc pour réintégrer le citoyen et le motiver, lui parler et pouvoir échanger avec le citoyen, c'est un peu ce qu'on a demandé au professeur Guilleux. Est-ce que le citoyen doit être aussi au centre de cette action pacifiste ?
Dans la cause de la paix, les sociétés civiles ont toujours eu un grand rôle. Parce que finalement, les pacifistes étaient issus de la société civile et progressivement, leur combat a permis de faire bouger les normes internationales et d'enrichir finalement le système international par de nouvelles garanties. Donc je pense qu'aujourd'hui, les citoyens ont tout intérêt à s'investir de cette problématique de la guerre et de la paix, même si le rapport à la guerre a évolué, du fait que notamment la conscription ne joue plus le même rôle dans nos sociétés. Mais il est évident que les citoyens sont ceux qui doivent porter ce message de la paix.
Bruno Hellendorf, les citoyens doivent participer évidemment, mais que pensez-vous du champ politique ? Est-ce qu'il faut que le champ politique réinvestisse cette idée de pacifisme ? Alors que, bon, on parle beaucoup de nouvelles formes de démocratie aujourd'hui, puisqu'il y a un manque de confiance évident dans ce qu'on a connu. Et est-ce que c'est justement le moment de réintroduire cette notion de pacifisme ?
Je pense que c'est même fondamental, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste, eu égard justement à des dossiers aussi saillants et importants que la Corée du Nord. Aujourd'hui, la Corée du Nord, c'est un dossier mondial, mais également toute la relation de l'Europe à la Russie, à l'Afrique du Nord, la situation géopolitique au Moyen-Orient sont autant de dossiers sur lesquels il est important de poser un regard qui soit informé, et qui soit pas seulement informé pratiquement, mais qui soit conscient de ses propres, j'ai envie de dire, de ses propres matrices de compréhension, d'un paradigme de vision des choses, et de ne pas se laisser porter, si vous voulez, peut-être par la facilité, par une vision réaliste, là que j'utilise le terme dans son sens commun, et puis peut-être s'interroger justement au-delà des seuls débats parlementaires, mais véritablement sur l'investissement par le politique du champ des idées, de l'idéologie, qui est en quelque sorte, pour schématiser, la grande perdante, à mon sens, de la transition, donc, que je mentionnais tout à l'heure, d'un ordre international qui était celui de la guerre froide à celui de la gouvernance multipolaire ou multilatérale, c'est selon, du monde aujourd'hui. Et donc je pense véritablement que dans tous les pays, et même à une échelle régionale, on l'a vu dans le cadre du CETA, il y a une question à se poser. Qu'est-ce que le politique peut proposer comme idée vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de la conflictualité aujourd'hui ? C'est véritablement, à mon sens, un enjeu de société et pas seulement un impératif diplomatique.
Espérons que les partis politiques, Thierry Delannoy, puissent mettre ça dans leur programme éventuellement.
Oui, mais je crois qu'il faut se rendre compte que on demande aux politiciens de voter une série de choses, mais de dossiers, ils ne connaissent ni l'ABC du dossier. Mmh. Quand il y a eu le problème des euromycines, ils allaient voter pour l'implantation des euromycines. Et là, le GRIP avait produit un document expliquant les enjeux des euromycines, ce que ça veut dire, quel est l'impact à gauche, en Occident, du côté de l'Est et tout ça. Et c'était le premier document que nos politiciens recevaient sur ça. Le gouvernement n'avait rien donné comme information. Et la même chose, quand on aborde le problème donc du CETA ou du TIP, on constate que nos politiciens n'ont quasiment pas d'informations. Et c'est toutes les actions menées par la société civile qui fait qu'ils prennent conscience qu'il y a peut-être un problème.
D'où l'intérêt des actions civiles et du GRIP de continuer à former et informer. Ben, vous me tendez la perche, là, j'en profite justement, et puisqu'on arrive déjà à la fin de cette émission, il y a un colloque organisé le mercredi 29 novembre 2017, organisé par la Fondation Henri Lafontaine, l'APNU, le GRIP et le Centre d'Action Laïque, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ouvert à tous, pour dire comme Kofi Annan, la paix est un rêve suspendu. Merci à nos invités, merci à vous chers auditeurs. À la semaine prochaine dans Libre Ensemble, même heure, mêmes ondes.
En quête de sens
sur la première.